Alors, donc on a la Mishnah numéro 6, page 71.
On est dedans.
Dernier chapitre, et Bezrat Hashem, dernière ligne droite, pour terminer la Mishnah Gittin. Donc, on a expliqué précédemment que les témoins qui signent sur le guet doivent écrire leur nom et le nom de leur père. Par exemple, il écrit Reuven ben Yaakov. Reuven, fils de Yaakov. Et ensuite, ils doivent ajouter la mention aide témoin. Toujours comme ça, dans le guet et dans la Ketouva aussi. Vous remarquerez toujours, il y a écrit le nom de la personne, Ben, le nom de son père, avec la mention Ed. D'accord. Alors, notre Mishnah, de quoi elle parle? Elle parle de deux guettes que le sofer a écrit, donc le scribe a écrit deux guettes, l'un à côté de l'autre.
C'est étonnant, parce que généralement, on prend le nom de la mère, parce qu'on, comme pour la...
Pour tout ce qui est témoignage, on prend toujours, pour tout ce qui est juridique dans la Torah, on prend toujours le nom du père. Pourquoi? Parce que c'est très simple. La raison pour laquelle on prend le nom du père, pourquoi on donne le nom du père? Parce qu'à l'époque, on pouvait avoir deux Reuven de la même ville. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On dit Reuven, fils d'un tel. Comme ça, c'est comme ça qu'on savait. Par exemple, à l'époque, on disait Reuven. Quel Reuven? Reuven, fils d'un tel. Donc on voulait pas se référer à la mère.
Pourquoi pas la mère?
C'est pas pour une bracha, c'est pas pour un Mishéberar, c'est pour savoir de quelle famille il est. C'était le nom de famille un petit peu.
Ouais.
Quand on dit fils d'un tel, c'est le nom de famille. C'est comme ça, par qui signe peut-être, je sais pas. Bon.
Vous allez voir aussi plein de gens qui étaient...
Alors, écoutez bien le cas qu'on va parler ici. Si maintenant, on a deux guettes qui ont été écrites. Deux guettes qui ont été écrites, donc on a fait deux colonnes sur une feuille. Colonne de droite, colonne de gauche. Deux guettes pour deux personnes différentes qui viennent divorcer. Et pour ces deux personnes, on veut utiliser les mêmes témoins. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire colonne de droite, colonne de gauche. Et en dessous, on va, comment on appelle ça, merger les deux colonnes. D'accord? Et on va mettre les témoins qui vont écrire une grande ligne en dessous des deux colonnes. Pour témoigner sur les deux. D'accord? Merger les deux colonnes, c'est comme dans Word.
C'est les développeurs. Les développeurs. Les
formations professionnelles.
C'est Geekip développeur.
Un copier-coller, c'est tout.
C'est comme ça qu'on dit, non? Merger.
Rassembler,
Hein?
Rassembler. Geekip, c'est coupé. C'est Ctrl X.
Alors.
Je regrette,
CTRL Z. Schneegitin. C'est bien beau Kastava, c'est sorti du vœu. Schneegitin, c'est Ketavam, Zebetsadze. Deux guettes, qu'on a écrit l'un à côté de l'autre. Ou Shnaim Idim Ivrim, Baim, Mitachat Zeleze. D'accord? Ou Shneedim Yevanim, Baim, Mitachat Zeletachatze. Alors, deux guettes, qui ont été écrits l'un à côté de l'autre. Deux témoins Ivrim, juifs, ont écrit. Mitachadze les tachadze. D'accord? Ça veut dire qu'ils ont écrit, ça démarre de la droite à la gauche. Donc ici vous avez un dessin, si vous voulez vous imaginer. Vous voyez, on a deux colonnes. On a le texte du guet. Et en dessous, vous voyez que on a rassemblé les deux colonnes. On a mergé les deux colonnes. Et ça fait une seule ligne. Vous voyez ici?
Oui.
Vous voyez dans le dessin?
Ça, c'est la fin des deux guettes, c'est ça?
Voilà. Nusachaguet, on a deux guettes. En deux colonnes différentes, on voit bien qu'ils sont séparés par une ligne.
Ouais.
Et en dessous, on a une seule ligne pour les deux.
Très bien.
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici?
Mais les deux étaient d'accord pour...
Ah bien sûr, oui,
c'est
d'accord.
C'est les témoins.
Donc, Ushnaim idim ivrim baim bachatimote mitachadze le tachadze. Donc, deux témoins juifs ont signé mitachadze le tachadze. Ça veut dire, donc, en dessous du guet, donc depuis le côté droit jusqu'au côté gauche. D'accord? Ushneedim Yevanim Baim Itachadze les Tachadze. Alors maintenant écoutez, mais on va compliquer l'histoire. Pourquoi on va compliquer l'histoire? Puisque, vous savez qu'en hébreu, on lit de droite à gauche, et en latin, d'accord? On lit de gauche à droite. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous, je vous ai dit, j'ai deux guettes. Un guette à droite, un guette à gauche. En dessous de ces deux guettes, on a deux lignes. On a quatre lignes. Deux premières lignes, c'est écrit en hébreu. Ça va de droite à gauche. Donc si ça va de droite à gauche, ça veut dire qu'ils sont liés aux guettes de droite ou aux guettes de gauche?
Aux deux.
Non, mais ils sont le plus, ça veut dire ils sont liés aux guettes de droite. C'est la continuité du guette de droite.
Ouais, à cause de... Bon.
D'accord? Non, c'est logique, regardez. Vous avez ici deux guettes.
Oui.
D'accord? Vous avez en dessous deux lignes qui vont de droite à gauche.
Oui, mais elles sont...
D'accord? Oui, mais on voit où la ligne démarre.
Bon.
D'accord.
D'accord.
D'un autre côté, quand vous voyez les deux lignes qui sont écrites en latin, ou en grec à l'époque,
ça
démarre de l'autre côté. Regardez ce que nous dit la Mishnah. Elle nous dit, et chaedi nikraim imo kacher. Le get avec lequel les témoins sont lisibles est kacher. Ça veut dire comme ça. C'est-à-dire que peu importe si les témoins signent en latin ou s'ils signent en hébreu. Ce qui compte, c'est les deux premières lignes qui sont en dessous le get. Les deux d'après, elles comptent pour rien. Elles comptent pour du beurre. Elles comptent pour rien du tout. Vous suivez ? Ça veut dire ce qui compte, c'est les deux lignes qui sont tout de suite après le get. Donc si les deux lignes sont tout de suite après le get sont écrites en latin, donc quel get est cachère, le get de gauche.
Oui.
Si les deux lignes, les deux premières lignes sont écrites en hébreu, oui. C'est quel get qui est cachère, le get de droite. Les deux lignes en dessous, c'est comme si elles ne sont pas là.
Pourquoi il devait y avoir...
Les gens ne savaient pas écrire en hébreu.
C'est une éventualité, c'est un cas qui a été fait. Rappelez-vous qu'encore une fois, à l'époque, on n'allait pas au Bedin pour faire le get. Donc c'est un cas qui est arrivé, on présente ce cas au Bedin. Le Bedin, il dit, le get de droite cachère ou le get de gauche...
C'était qu'en hébreu.
Normalement, on peut signer en latin, il n'y a pas de problème. La signature peut être en latin, il n'y a aucun problème.
À la convention,
je veux dire plus que ça, même le get à la base aurait pu être en latin. Bon, on a préféré le faire en araméen, parce que c'est un texte qui a été verrouillé par les rachamim de l'époque. C'est un texte qu'on considère qui verrouille tous les problèmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de porte de sortie, donc on a gardé ce texte aujourd'hui. Mais théoriquement, il aurait pu être en latin, en français, en ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Alors, Ed Echad Ivri Ved Echad Yevani. Maintenant, si maintenant on a un témoin hébreu, c'est-à-dire un témoin qui est écrit donc en hébreu, de droite à gauche, et un témoin qui est écrit en grec. Ou bien, Ed Echad Ivri Ved Echad Yevani. Baim Mitachadze Letachadze. Ça veut dire qu'ils ont signé par intermittence. On a eu un qui a écrit en hébreu, après l'autre en latin. Un hébreu, l'autre latin. Qu'est-ce que vous dites dans ce cas-là?
Je viens de le dire.
D'accord. Shneim, Soulim, les deux sont pas saouls. Pourquoi les deux sont pas saouls? Puisqu'il nous faut deux lignes, l'une à la suite de l'autre, qui sont à la suite du get et qui vont dans le même sens.
C'est marrant que c'est une forme de ça quand même.
Bah.
Du départ du texte.
Non, vous savez que même graphiquement.
Non, mais pour la.
Graphiquement, on fait attention.
Le départ du texte.
On fait attention au départ du texte.
Ça va jouer sur là.
Graphiquement, on fait attention au départ du texte. Par exemple, regardez, quand vous voyez le Tosfot, par exemple.
J'ai pas le Tosfot à côté de moi.
Quand vous voyez le Tosfot, des fois le Tosfot, la ligne va démarrer à droite. Mais après, elle va aller sur la gauche, elle va aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire, elle va juste démarrer un petit peu à droite. Et pourtant, on dit la colonne de droite. Parce que visuellement. Puisque ça commence à droite, c'est la droite. Si ça commence à gauche, c'est la gauche. D'accord ? Et c'est pour ça que même visuellement, un graphiste, il ne vous fera pas démarrer une colonne qui doit démarrer à la droite, il vous la fait pas démarrer à la gauche, ça veut rien dire. D'accord ? Ok. On passe à la Mishnah suivante.
Attends une seconde.
Ce qu'on doit finir.
Oui, mais les deux témoins, ils vont être témoins pour deux guettes différents.
Oui,
ça va être les mêmes témoins pour deux guettes différents.
Pas de problème.
C'est ça que c'est.
Pas de problème.
Oui, d'accord.
Alors, Shia Mixataget, Urtavo Batalacheni. Maintenant, on parle toujours en ce qui concerne les signatures. Mishnah numéro 7.
Ouais.
Donc toujours en ce qui concerne les signatures. Si une personne a écrit un get en deux pages, là, ça va commencer à poser problème. Ça veut dire que elle a écrit en deux pages, il n'y avait pas assez de place dans la page de droite, par exemple, et il a fait la page de gauche, il a fait deux colonnes. À la base, il voulait faire une colonne, mais il écrit, il voit qu'il n'y a pas assez de place. Donc il fait une deuxième colonne, il avait un grand parchemin. Veidi, Milmata, et les témoins sont en bas. Cacher, il est cacher, il n'y a pas de problème. Seulement la seule condition qu'explique la Gemara, c'est qu'il faut que dans le get soit visible que il n'y a aucun rajout. C'est-à-dire par exemple, si j'ai une colonne de droite qui prend 10 lignes, et la colonne de gauche elle prend 3 lignes, il faut mettre des traits en dessous, comme dans l'échec. Mettre des traits en dessous pour être sûr qu'on ne rajoute rien. Bah oui, parce que sinon on n'en finit plus. Ça veut dire qu'il faut que visuellement, on voit que les deux témoins qui ont signé en dessous, c'est la continuité. Sinon c'est un problème.
C'est logique.
Donc le visuel est très important. Khatmu Edim Berosh Adaf, si maintenant les témoins ont signé en haut de la page, Minatsad, ou bien à côté, Ome Acharav, Beget Pashut, ou bien s'ils ont signé à l'arrière du get, dans un get simple, parce que rappelez-vous, on a dit qu'après on a fait le get à point. D'accord? Vous rappelez? Bon, là on parle du get.
Pas en get à point.
On parle d'un get normal. Donc si les dîmes ont signé derrière, ou ils ont signé à côté, ou ils ont signé en haut, qu'est-ce que nous dit la Michelin tout ça? Pasoul, c'est Pasoul. D'accord ? Parce que les Chachamim ont instauré que les témoins doivent signer en bas. Je sais pas comment c'est chez les Goïm aujourd'hui. On doit signer aussi en bas.
La mairie, oui.
On doit paraffer s'il y a plusieurs feuilles.
Si signe en haut.
C'est en bas.
Toujours en bas.
Toujours en bas.
Oui, mais s'il y a plusieurs feuilles, on doit paraffer les
feuilles
précédentes en bas.
Oui, mais quand on paraffe, on n'est pas obligé de le faire en bas. On peut le faire
sur le côté.
Sur le côté.
Comme quoi.
Côté gauche, côté droit.
Ceci aussi est un.
Ouais. Alors, Ikiv Rosho Shelze, Betzad Rosho Shelze. Si maintenant, regardez ce maboule ici. Ikiv Rosho Shelze, Betzad Rosho Shelze.
Pourquoi un maboule ?
S'il a pris, vous allez voir pourquoi. S'il a pris, donc l'extrémité de deux guettes. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a commencé à écrire le guette sur une page, et il a terminé sur une autre page. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ensuite, il a collé les deux pages l'une à côté de l'autre, sans scotch, sans rien. Il a commencé à écrire sur le... Donc le témoin a commencé à écrire son nom, Reuven Ben, et sur l'autre page, il écrit la suite. Ça veut dire que quand on met le puzzle ensemble, c'est là qu'on voit que le témoignage. Mais si tu défais les deux feuilles,
il
n'y a rien.
Oui, mais d'accord, justement, ça aurait été une preuve que c'était écrit, que les deux feuilles sont collées. Sont...
Très bien, donc le sofer a fait ça avec cette attention.
Oui.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Vaedim Behemta, Shneem Tsoulim. D'accord. C'est bien beau tout ça, mais les deux, ils sont pas saouls. Pourquoi? Puisqu'on peut le lire ni avec un guet, ni avec l'autre. Ah oui, c'est... Maintenant, Sofo Shelze, Betsat Sofo Shelze, Vaedim Behemta. D'accord. Si maintenant, c'est le compte, si maintenant, il a fait Sofo Shelze, Betsat Sofo Shelze, ça veut dire comme ça. Il a écrit, il a fait une autre technique là. Il a fait un guet, qu'il a écrit de haut en bas, normalement. D'accord. Il a signé en dessous. Il a commencé à écrire une signature. Mais le get n'était pas encore fini. En dessous, il écrit une autre signature et la suite du get. Parce qu'apparemment, il n'avait pas de place. Là, qu'est-ce qu'il nous dit ici?
D'accord.
Et tu as édim ni krimimo kacher. Si les témoins sont lisibles avec lui, il est kacher. Alors, comme l'Agmar explique de quoi on parle, on parle d'une personne qui a écrit deux get. Pour deux personnes différentes. Ils ont voulu économiser. Ils ont dit, bon, ben, les témoins, on va faire qu'une signature pour les deux. Alors, qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Dans ce cas-là, le get avec lequel les témoins sont lisibles, donc en d'autres termes, le get qui est au-dessus de la signature des témoins, celui-là est caché. Mais celui qui est en dessous, il ne sera jamais caché. D'accord?
C'est pour des raisons de sécurité, quoi.
Oui, c'est pour des raisons de sécurité.
C'est ça. C'est...
Pour éviter...
Pour rajouter des mentions en bas de la signature.
Sinon, les témoins auraient dû re-signer en bas du deuxième.
Exactement.
Et là, ça aurait été bon.
C'est sûr. Rosho Shelze, Betsat Sofo Shelze, Zahedim, Bemsa, Et Shelze, Ukraim, Sofo Kacher. Donc pareil, bon, c'est un deuxième cas de la Mishnah, mais c'est le même concept, que on suit toujours le get qui est lisible, on suit toujours le get qui est, les témoins qui sont lisibles avec le get. Donc toujours on suit celui qui est en bas. Et si tu as écrit autre chose après, ça vaut rien. Il faut re-signer une deuxième fois.
Et avant c'était des rouleaux qu'ils avaient, c'est ça?
Non. Non, pas forcément, non. Des morceaux de parchemin, non.
Le A4 n'existait pas.
D'accord.
Le A4 n'existait pas.
Alors ensuite la Mishnah continue de la chose suivante. Get Chektavo Ivrit Veda Vivanit. Un get qui a été écrit en hébreu et que ses témoins ont signé en grec. Ou bien Yevanit Vedav Ivrit. Ou bien un get qui a été écrit en grec, ce qui aurait pu être kasher, mais les témoins ont signé en hébreu. Ou bien Edechad Ivri Vedechad Ivani. Un témoin a signé en hébreu et le témoin a signé en grec. Donc c'est du latin aujourd'hui, d'accord? O Kata va se faire Ved. Ou bien, autre cas encore, si le sofer qui a écrit le get s'est porté témoin. Alors le scribe qui a porté le get, il dit, bah dans ce cas-là, s'il n'y a pas de témoin, moi-même je serai témoin. Qu'est-ce qu'on nous dit dans ce cas-là? Dans tous ces cas-là, kasher, il est kasher. Ça veut dire qu'on apprend quelque chose de très fort ici, on apprend que la signature peut avoir une autre nature que le get. Si le get était écrit en hébreu et que les témoins ont signé en français, c'est kasher. D'accord? On apprend beaucoup, c'est très fort ce qu'on apprend là. C'est caché, il n'y a pas de problème. À la base, on essaye de faire qu'ils signent en hébreu, mais s'ils avaient signé en français, ça aurait été caché. Donc là, ça peut nous concerner pour une ktouva, pour ce que vous voulez. D'accord? Alors, Ishploni Ed, caché. Si maintenant il a écrit, c'est autre cas aussi. Donc là, on va parler de plusieurs cas de figure sur la signature des témoins, et on va dire à chaque fois ce qui est caché, ce qui n'est pas caché. S'il a écrit Ishploni, ça veut dire qu'il a écrit Reuven, Ed. Normalement, on a dit de écrire Reuven, fils de Yaakov, Ed, témoin. Mais s'il a écrit tout court Reuven, témoin, il n'a pas écrit le nom de son père. Kacher, c'est aussi Kacher. Ou bien, s'il a écrit Ben Ishplouni, il n'a pas écrit son prénom. Il a écrit fils d'un tel. Kacher. D'accord? Il a écrit je suis fils de Yaakov. Kacher, le guet est Kacher. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, le but de la signature d'un guet, c'est qu'on doit avoir la possibilité de faire une enquête. Et donc puisque là, on a quand même un début de piste, donc c'est Kacher. Ishplouni, Ben Ishplouni. S'il a écrit Reuven, fils de Shimon, fils de Yaakov. Et il n'a pas écrit, il n'a pas ajouté la mention témoin. Vous remarquerez, quand vous rentrez chez vous, regardez dans votre ketouba, c'est écrit toujours après le nom du témoin, c'est écrit Ed. Toujours. C'est écrit le nom du témoin, Ben, le nom de son père, la mention Ed. S'il n'y a pas la mention Ed, c'est kasher, il n'y a pas de problème aussi. Bien sûr, il faut le faire. V'chach ayu nekiya dat shibirushalayim aussi, mais pas seulement que c'est kasher. D'accord? On nous raconte, on nous dit que les Nekiyadat, ça veut dire les gens qui étaient raffinés à Jérusalem, les gens qui étaient de bonne famille à Jérusalem, et ils avaient l'habitude d'écrire toujours de manière très concise, eux ils ne rajoutaient pas la mention Ed. Donc de là on voit que c'est kasher même les Khatrila. même a priori, et c'est pas seulement a fortiori. Katav, Chanichato va Chanichata. Si maintenant dans le sofer dans le guet, il a écrit, il n'a pas écrit le nom du mari et le nom de la femme, mais il a écrit leur surnom. D'accord ? Par exemple, quelqu'un qui s'appelle David, il a écrit Dave.
Mickey et Daisy.
D'accord ?
Est-ce que c'est valable ?
Est-ce que c'est valable ? Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici ? Kacher, il est kacher. D'accord ? Il est kacher. Il n'y a pas de problème, c'est kacher. Get meousé. Autre chose nous dit la Mishnah, un get forcé. Ça veut dire un get que le mari il donne. Qu'on a forcé le mari à donner un get. Qu'est-ce que dit la Gemara, la Mishnah ? Be Israël, kacher. Si c'est un get qui a été forcé chez Israël, c'est-à-dire dans un Beit Din juif, ça c'est très intéressant comme jurisprudence. Ouais. Si on a forcé Beit Israël dans un Beit Din juif, qu'est-ce qu'on dit ? Kacher, il est kacher. Puisqu'on estime que si le Beit Din a forcé la personne à donner le get, certainement qu'il avait des bonnes raisons de le faire. Donc, le get est kacher. Mais, Uba Goïm, Pasoul. Mais si on a forcé la personne à donner un get, Bagoïm, chez les Goïm, est-ce que le get est kacher ? Non.
Non.
Pourquoi ? Parce qu'on se dit, on ne sait pas si les Goïm, quand ils ont forcé la personne à écrire le get, on ne sait pas si vraiment il y avait besoin de donner le get. Donc, est-ce qu'il est kacher le get dans ce cas-là ? Si on l'a forcé chez les Goïm, il n'est pas kacher. Vous voyez, ça veut dire que si aujourd'hui, on force quelqu'un à donner le get, on le force à donner le get dans un tribunal en France. C'est déjà arrivé, vous savez. Récemment, l'année dernière, il y a le tribunal, je sais qu'il y a eu un cas en France, à Paris, dans lequel il y a une femme qui a attaqué son mari en justice, parce qu'elle lui a fait traîner pour son get. Et elle a gagné. Il l'a fait traîner pour le get, et elle a gagné. Il a dû lui payer dommages et intérêts. Donc, qui dit dommages et intérêts, ça veut dire que la justice française, on a une jurisprudence ici, la justice française reconnaît qu'il faut que le mari doit donner le get à sa femme, et que s'il ne lui donne pas, ça la fait souffrir.
Préjudice.
D'accord ? C'est un préjudice. Donc, et le tribunal français a reconnu ça. Alors, je ne sais pas s'il a fait appel après ou pas, mais en tout cas, le tribunal a reconnu
ça. Non, c'est valide, c'est valide.
Il n'y a pas eu appel après ?
C'est archi valide.
Tu as entendu cette histoire ?
Mais oui, mais c'est plus un cas d'école. Hein. Il y a eu des dizaines. Hein.
Ah, il y en a eu, bon.
Bien sûr.
La dernière, c'est la première fois que ça s'est arrivé.
Mais c'est vieux, hein. Ça a une quinzaine d'années.
Non, cette histoire que ils ont forcé à payer de l'argent pour un préjudice.
Oui, parce que de toute façon, n'importe quel préjudice moral, ouais. Dehors d'un bonhomme et un autre bonhomme, le gars, il a pris un objet, les cendres de son père,
ouais.
Le préserve. Et il les garde en captivité. Le dans moi les. C'est un préjudice moral.
Ils ont considéré ça comme un préjudice. Ouais. Alors, en tout cas, ce qu'on dit ici, c'est que forcer quelqu'un à donner le get chez les goyim, si on l'a forcé, le get n'est pas cachère. Puisqu'on dit que on n'a aucune preuve qu'ils avaient peut-être que dans un bedin juif, on n'aurait pas fait le get, on n'aurait pas forcé à faire le get, on aurait dû vous arranger. Donc Uba Goyim, Chofti Noto ve Omrin Lo, Asse Maché Israël, Omrim Lach, ve Kacher, il est cachère. Alors maintenant écoutez la technique qu'on a. S'il n'y a pas de bedin juif ici. Dans une ville, il n'y a pas de Beit Din juif, il n'y a que l'un Beit Din goy. Donc, le juge goy veut forcer la personne à donner le get. Comment il peut faire ? Parce qu'on a dit, normalement, c'est pas caché, il peut pas forcer. Comment il peut faire ? Il peut le frapper, d'accord ? Il peut frapper la personne, et il lui dit, fais ce que les juifs t'auraient demandé.
Waouh !
Ça veut dire, pas ce que moi je te demande. Fais ce que les juifs t'auraient demandé.
Bah, c'est le cas de la présente.
Et là, c'est quoi le din ? Cacher, il est cacher.
En quoi le fait de le frapper, ça change le point de vue du...
Non,
le
frapper, c'est pour nous dire qu'il faut le forcer. On parle de quelqu'un qu'on a forcé ici. Bon. Alors, maintenant, je passe à la Mishnah tête. 9e Mishnah, donc avant-dernière Mishnah de Gittin.
Et quand on tête, c'est bon.
Yatsa Shma Bahir Mekoudeshet. Si une femme qui est jeune fille, une femme qui a toujours une chazaka, une présomption qu'elle est jeune fille, et il y a eu un bruit qui est sorti dans la ville qui dit que cette femme est déjà consacrée à quelqu'un. Rappelez-vous qu'à l'époque, on se consacrait, la femme était consacrée au mari un an avant le mariage. Donc il y a eu un bruit qui dit que cette femme est consacrée. À raison mes coups d'échette, même si la femme a dit mais pas du tout, j'ai jamais été consacrée, eh ben à raison mes coups d'échette, la femme est considérée, pour le tribunal, elle est considérée comme consacrée parce qu'on a un doute, donc elle devra avoir un guet. D'accord ? Alors, la Gemara explique, la Gemara pose la question, elle dit, mais attends, c'est quoi cette histoire ? Ça veut dire que si j'ai envie d'embêter quelqu'un, je fais un bruit, c'est tout, je fais un bruit sur lui, ça veut dire quoi ? J'ai envie d'embêter une femme, je fais un bruit, et c'est fini, elle est... Non. Alors, écoutez bien ce que dit la Gemara. La Gemara explique que de quelqu'un on parle ici, on parle un cas que c'est pas une personne qui a raconté, mais c'est plusieurs personnes qui ont raconté. Par exemple, d'accord, ils ont vu des femmes lui dire Mazal Tov. D'accord. Oui. Où il y a plusieurs personnes. Ça veut dire que c'est pas simplement un bruit. C'est plus qu'un bruit. C'est un bruit qui est fondé. Là, le Bedin peut se baser sur ça, mais sinon, ça vaut rien. Megoreshet, a raison Megoreshet. Maintenant, ça va être de l'autre côté aussi. Si on entend un bruit sur une femme qu'elle est divorcée, on entend un bruit et les gens disent nos condoléances, désolé, etc. Et la femme me dit, mais j'ai jamais été divorcée. D'accord. Oui, maintenant, j'ai entendu que quand on divorce, on dit Mazel Tov. C'est vrai, j'ai déjà vu des gens, ils disent Mazel Tov.
On appelle un traiteur. Je les invite pour mon divorce.
C'est pas une blague, hein. J'ai vu une fois une femme qui, devant moi, j'ai vu à côté d'IFZ là-bas. Elle a dit, ça y est, j'ai mon divorce, elle a dit Mazel Tov.
Oui, parce que peut-être qu'elle est super.
Oui, parce qu'elle est en souffrance.
Elle a déjà souffrance. Un autre mazel.
J'espère que le guet n'était pas pour un autre mariage.
Le mariage suit, voilà.
Voilà.
Que le mariage suit.
C'est ça ce que je veux dire.
Le roi est mort, vive le roi.
C'est un peu ça.
C'est ça.
Alors, donc s'il y a un bruit qui dit que la femme est divorcée, à réseau mais gourochette, la femme est divorcée. C'est-à-dire on considère qu'elle est divorcée, et elle de prouver qu'elle n'est pas divorcée. Ou bilvat chez le yesham à matelas. Le seul cas comment la femme pourra s'en sortir, c'est si elle trouve une raison pour casser le bruit, pour dire qu'il y a eu un, je sais qu'il y a eu un bruit sur moi, mais c'était telle dame qui ne m'aimait pas. Donc il faut qu'il y ait une excuse, il faut expliquer. C'est-à-dire je ne peux pas venir dire c'est faux ce que vous avez entendu sur moi. Il faut expliquer pourquoi c'est faux, il faut expliquer d'où c'est venu. Donc à la femme de faire l'enquête, parce que c'est un bruit qui est fondé. On a vu beaucoup de monde dire Mazal Tov, tout ce que vous voulez. Donc il faut à la femme de fonder, d'expliquer au Beit Din pourquoi c'est quelqu'un qui lui voulait du mal et qu'en vérité c'est faux. Une fois que la femme explique ce qui s'est passé, il n'y a pas de problème, on la croit.
Il est seulement en voyage.
Et Zoï Amatla, maintenant la Gemara, la Mishnah nous donne un exemple d'une excuse. Geresh ish, ploni et ishto altnai. D'accord. Si par exemple, elle dit oui, je sais qu'il m'a divorcé. Mais en vérité, il m'a divorcé avec une condition. D'accord. Ou bien, Zarakla kidushéa, ça fait karovlo, ça fait karovla. Ou bien, si elle dit, regarde ce qui s'est passé. Donc pour le cas de divorce, c'est quoi un exemple? C'est si elle dit, si le mari a dit, je te divorce avec une condition. Donc la femme va dire, écoutez, il y avait une condition, la condition n'a pas été accomplie, donc je ne peux pas divorcer. C'est tout. Un cas pour un mariage, vous voulez, très simple. La Mishnah donne le cas, c'est quoi? Par exemple, si le mari a jeté l'argent à la femme pour la marier. Et le principe qu'on a expliqué dans la Gemara Kiddushin, c'est que il y a le concept de distance. Si c'est plus près du mari que de, même s'ils sont à 100 mètres l'un de l'autre, d'accord? Si ça arrive, si c'est plus près, voilà, c'est comme la pétanque. Si ça arrive plus près de la femme que du mari, elle est mariée. Si c'est plus près du mari, d'accord? Elle n'est pas mariée. Elle n'est pas consacrée. Le problème qu'on peut avoir, c'est que la femme peut dire, écoutez, moi, c'est arrivé plus loin. Maintenant, les gens, ils ont vu, ils ont dit, oui, c'est plus près, alors que c'est pas plus près. C'est pas un tenaille, c'est un cas, ça.
Il est tombé dans une gouche d'égout, j'ai jamais eu.
Le cas, c'est quoi? C'est la femme qui dit, je veux te marier.
La femme qui dit, j'ai jamais été mariée.
Mauvaise foi, par exemple.
Mauvaise foi.
Par exemple.
D'accord. Donc là, elle a une excuse, la femme. Elle va dire, écoutez, c'est un cas bizarre déjà, vous voyez bien, il m'a jeté, mais c'est pas arrivé, donc moi, j'ai pas accepté. Et après, il a pas relancé. D'accord. Il n'a pas relancé.
Relancer l'argent.
Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit ici la Mishnah? Si la femme a une excuse, elle a une raison d'expliquer ce qu'elle voulait dire, c'est cachère. Et enfin, je termine la dernière Mishnah.
Non, mais attention, elle est dangereuse, celle-là.
Attendez. Bet Shammai Omrim. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai Omrim.
Lo Yegaresh. On peut faire des divorces à condition, mais est-ce qu'on peut faire des mariages à condition?
Bien sûr.
Oui, pareil.
La même chose. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai Omrim, la chose suivante. D'accord? Lo yegaresh adam atishto elaim ken matzava dvar erva. Un homme n'a pas le droit de divorcer sa femme, sauf s'il a trouvé dvar erva, ça veut dire, littéralement, ça veut dire une chose douteuse en rapport avec la nudité. Ça veut dire il voit que sa femme, d'accord, elle voit qu'elle n'a pas un bon comportement avec d'autres hommes, etc. Il y a un problème. C'est la seule raison, le seul cas dans lequel il peut divorcer. C'est la vie de Beit Shammai. Chez Neymar, comme c'est écrit, ki matzava erva davar. La Torah, quand elle nous parle du divorce, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'un homme a trouvé un cas de nudité chez sa femme. Donc, ça veut dire que c'est autour de ça. Et si simplement elle lui casse les pieds, il ne peut pas divorcer. C'est la vie de Beit Shammai.
Il n'y a pas de sortie de
secours. Ou Beit Shammai. Beit Shammai dit.
Ouais, on a d'autres solutions.
D'accord. Afilou dirat afshilo. Beit Shammai dit, même si elle a raté son plat.
Ah.
Chez Neymar, comme c'est écrit, Kimatsaba ervat dava.
Tous ces plans.
D'accord.
Vérité,
hein. Qu'est-ce qu'il dit, Vatilé? Il dit, c'est écrit, Ervat Davar. C'est quoi Ervat Davar? Ervat Davar, moi je traduis pas par une nudité. Je traduis par un défaut. Elle m'a cassé les pieds. Donc même si elle m'a raté mon plat, et que ça m'énerve, en d'autres termes, bon, pas une fois, mais plusieurs fois, et que moi ça m'énerve, ça me fait sauter à chaque fois, j'ai le droit de divorcer pour ça. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il dit, à Filou.
C'est pour qui cuisiner?
C'est grave, regardez.
Attendez.
C'est pour qui cuisiner, c'est pour ça.
À Filou. D'accord. Matza Acheret, Na'a Emena. Même s'il a trouvé une autre femme plus belle. Chez Neymar, comme c'est écrit.
Ça, c'est dangereux, ça.
Alors là. Même si j'ai dit ça une fois à la maison, ça a duré 15 jours, la scène.
Ah bon.
Il a écrit ça. Ah oui, il a écrit ça. Même s'il a trouvé une autre femme qui est plus belle que lui, qui est plus belle qu'elle, pardon. D'accord. Chez Neymar, comme le verset il dit, Vaya imlo timsa chen beinav. Comme c'est écrit, si la femme ne lui plaira pas, eh ben, elle a le droit de la divorcer. D'accord. Alors, elle a le droit de la divorcer. Donc, Vaya imlo timsa chen beinav. Néanmoins, qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? La Gemara nous dit que la halacha, d'accord, la halacha, elle est comme la vie de Beth Hillel. L'alakha est comme le mythe de Beth Hillel, que, comme ce qu'on fait aujourd'hui, qu'un homme peut divorcer sa femme, si elle lui rate son plat, c'est une manière de dire si elle lui casse les pieds. D'accord? Rater le plat, c'est une expression à l'époque pour dire que quelqu'un il me rend la vie amère. Ça va, à l'époque, il connaissait que ça. Rater son plat, ça veut dire...
Il y a du poison dedans.
Voilà, tu me casses les pieds. On a le droit de divorcer pour ça.
Et inversement, la femme, on peut divorcer de son mari.
La Mishnah parle pas de ça.
Ah ouais.
C'est que pour là.
À l'époque, la Mishnah, ça n'existait pas.
Il y a plein de cas de rabbinim.
Le consentement mutuel, tu vois.
Quand il y a des sucrés, il y a des salés, quand il y a des salés, il y a des sucrés, et il y a des divorces.
Elle veut l'embrasser.
Oui.
Non,
on ne dit pas qu'il doit divorcer dans ce cas-là. On dit qu'il peut divorcer.
Peut divorcer.
Il y a des exemples, il y a des exemples qu'il ne faut pas le faire.
Bien sûr.
Bon, normalement, il faut faire les 613 mitzvot.
Mais la
donc, on doit divorcer.
Non. La mitzvot de divorcer.
Pour se marier.
Non, mais attention.
Avec la même.
La mitzvot de divorcer, c'est si tu divorces, voilà comment tu devras faire. Il n'y a pas de mitzvot de divorcer.
Oui, mais bon, il faut le faire, cette mitzvot.
La mitzvot, c'est se remarier avec la même femme. C'est ça.
C'est le top, ça.
Bah oui, divorcer, se remarier avec la même femme.
Ah bon, qui divorce la première.
C'est le grand amour, après.
Moi, je connais un cas comme ça. Il a divorcé de sa femme, et il
s'est remarié. C'est une teshuva, ça, c'est la teshuva, ça. Le conseil de la teshuva.
My traitor is rich.
Ça n'a pas duré très longtemps, mais...
Non, il ne faut pas être traiteur.
Il
ne
faut pas qu'elle se remarie entre temps, c'est ça.
Oui, pas qu'elle se remarie entre temps que
d'un. C'est la question, bien sûr.
Et c'est ça le problème.
Sauf si c'est avec un goy.
Mariée,
sauf si avec un
ça veut dire qu'il y a un.
Elle n'est pas vraiment mariée. Ouais.
Elle s'est mariée avec un gars, elle peut se remarier.
Pas mariée, ouais. Mais même si. Pas avec son mari.
Oui.
Même si elle a été entre-temps avec un gars.
Ah oui, parce qu'on considère qu'il n'y a rien. On considère que. C'est considéré comme si qu'elle n'a rien fait.
Elle a quand même été avec un autre homme.
Elle a fait chose si elle était mariée.
Je vais poser une question très chaude.
Ah, c'est bon.
Je vais poser une question très chaude. Un homme qui est avec une femme qui est mariée avec un gars.
Très chaude, ça veut dire quoi?
Très chaude au niveau à la rabe, machin. Un homme qui va avec une femme qui est mariée avec un goy. Est-ce que c'est adultère ou c'est pas adultère?
Non, c'est pas adultère.
Ouais. Quoi? Elle n'est pas mariée.
Quoi? Ça va prendre 15 jours encore. Quoi?
C'est assourd.
C'est quoi ta question?
Bien sûr que c'est assourd, on l'a fait le contraire.
Mais c'est pas adultère.
Qu'est-ce qui est pas adultère?
Un homme qui va avec une femme mariée avec un non-juif.
L'homme est marié ou pas marié? Et c'est adultère pour qui? Pour la femme ou?
Pour la femme, bien sûr. Et l'homme aussi.
L'homme, il n'y a pas d'adultère.
Non, l'homme, il n'y a pas d'adultère.
L'homme, il n'y a pas d'adultère. C'est ça, là.
C'est attention, c'est assourd.
L'homme, il n'y a pas d'adultère.
Il peut aller avec 10 femmes, c'est assourd, mais il peut aller avec 10 femmes célibataires.
Oui.
Il n'y a pas d'adultère.
Il est considéré célibataire.
C'est la znout. Mais c'est pas de...
Donc, je nous explique la dernière phrase.
Hein?
Attention, tu ouvres le...
Voilà, on l'a expliqué. Comme c'est écrit, il dit, même s'il a retrouvé... D'accord, même s'il a trouvé une autre femme... Quand même, la Gemara explique, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a trouvé une femme plus belle qu'elle? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a trouvé une autre femme qui lui porte un peu plus de grâce, comme ça explique la Gemara. Mmh. Et du coup, comme il a vu mieux, donc sa femme, il n'arrive plus, ça colle plus.
Ouais.
D'accord, sa femme actuelle, il n'arrive plus.
Mais tu sais,
d'accord.
Mais parce que...
Bon, faut savoir que, quand on parle de Gittin, c'est expliquer que c'est pas seulement matériellement, mais c'est aussi spirituellement. Spirituellement, il faut savoir que la halakha, elle est comme Beit Shammai. Ça veut dire quoi? Spirituellement, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est le mari. Et le Knesset Israël, nous sommes la femme. Et spirituellement, on veut nous dire que... Qu'est-ce qu'il nous dit ici, Beit Shammai? Beit Shammai nous dit qu'un homme a le droit de divorcer sa femme, seulement s'il a trouvé quelque chose de nudité. C'est-à-dire s'il est capable de prouver... que vraiment sa femme est en train de le tromper. Ça veut dire que la Kadosh Baruch Hu ne peut divorcer de nous, Chas V'Shalom, seulement s'il est capable de prouver que vraiment on s'est révolté contre lui. Comme on sait très bien que c'est pas le cas. D'accord? Très bien que c'est pas le cas. Donc c'est pour ça qu'on dit que la halakha, quand Machiach revenir, sera comme Beit Shammai, et qu'en vérité, la Kadosh Baruch Hu ne peut pas divorcer de nous. Beit Hillel, qu'est-ce qu'il dit? D'accord? Qu'est-ce qu'il dit Beit Hillel? Beit Hillel, il dit que Afilu Igdira Tafshilo. Afilu Igdira Tafshilo, ça veut dire quoi? Afilu Igdira Tafshilo, ça veut dire même si la femme, on a le droit de divorcer, même si sa femme a raté son plat. C'est-à-dire quoi, a raté son plat? C'est-à-dire que si on ne fait pas notre travail comme il faut dans le monde ici-bas, on a un plat. D'accord? Et enfin, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Akiva, rappelez-vous ce qu'il a dit. Il a dit, même si on a trouvé une autre femme plus belle qu'elle, c'est-à-dire si Dieu y trouve un peuple,
une autre communauté,
d'accord, une autre communauté qui serait plus belle que nous. Mais puisqu'on sait que quand Machiach va revenir, la halakha sera comme Beth Shammai, c'est-à-dire que dans le ciel, la halakha est comme Beth Shammai, ça veut dire qu'on sait que Kadosh Baruch Hu ne peut jamais divorcer de nous. C'est ce que ça veut dire.
Oui, tant qu'on n'a pas un comportement malsain.
Ouais. Kadosh Baruch Hu ne peut jamais divorcer de nous.
Jacques,
et en fait, je voulais finir aussi sur une autre note que le rabbi explique, puisqu'on fait le sioum. Une autre note que le rabbi explique. Il dit comme ça. Il dit ici, qu'est-ce qu'on vient de dire ici? On vient de dire ici que un homme n'a pas le droit de divorcer sa femme. C'est quoi le concept de divorcer sa femme? C'est pas seulement entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, mais ça peut être aussi entre l'homme et sa mission. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a une mission.
Don't give up.
D'accord, on a une mission, exactement, don't give up. Et des fois, on dit que la mission est trop difficile pour nous, trop compliquée. Donc on a envie de give up, de lâcher, de dire ça, c'est trop dur pour moi.
Renoncer.
D'accord, renoncer. Et là, on aura la même machloket, Beth Shammai, Beth Hillel, Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il nous dit, Beth Shammai? Beth Shammai te dit, tant que tu ne vois pas que ta mission t'amène à une avera, Dvar Erva, tu n'as pas le droit de t'arrêter dans ta mission. Très dur ce qu'il dit, Beth Shammai. Tant que tu ne vois pas que ta mission t'amène à une avera, c'est-à-dire tant que tu arrives, même si tu vois que ça marche plus tellement, tant que ça n'amène pas à une avera, tu n'as pas le droit de regretter, tu dois continuer dans ta mission, tant que ça n'amène pas à une avera. Qu'est-ce qu'ils disent, Bethilel? Bethilel, ils disent, si je sens que ça m'amène à un affaiblissement spirituel, il dit Khatafshilo, le plat raté, là j'ai le droit de demander à Kadosh Baruch Hu de me changer de mission. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il nous dit que même si on a trouvé une autre femme plus belle qu'elle, ça veut dire quoi? C'est-à-dire même si je pense que j'ai trouvé une autre mission qui est plus sympa, j'ai le droit. La halakha au jour d'aujourd'hui, elle est comme qui? On a dit, elle est comme Beth Hillel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Non, aujourd'hui.
Aujourd'hui.
Galut. Oui. La halakha aujourd'hui, elle est comme Beth Hillel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on voit que la mission... On a une mission... Comment c'est qu'on a une mission? On a une mission. Je vois que je suis dans un travail, je suis dans quelque chose, j'ai une mission, mais je vois que ça me cause du tort. Je suis pas encore arrivé à une avéra, comme l'histoire de Beth Shammai, mais ça me cause du tort. Beth Hillel, tu dis, tu as le droit de divorcer de ta mission. Tu as le droit de changer, de demander à Kadosh Baruch Hu de changer de mission, de dire, écoute Dieu, ça me fait du mal, donne-moi une autre mission. Beth Shammai, comme qui la chassera quand ma chère viendra, lui Beth Shammai dit, tant qu'on n'arrive pas à une avera, si à Kadosh Baruch Hu il t'a mis ici, c'est-à-dire que c'est ta mission et tu dois continuer, jusqu'à que, tant qu'il n'y a pas d'avera, tu continues. Ça c'est la vie de Beth Shammai. On a eu ici Beth Shammai, Beth Hillel, Rabbi Akiva, selon le spirituel des choses.
Ce qui explique beaucoup les oppositions parfois vaines de Beth Shammai.
Ouais. Allez, forcément, ça c'est un sujet. Mais spirituellement, c'est...
Spirituellement, c'est au-dessus, en fait. C'est
vous voyez comment, quand on voit la Mishnah ici, on voit que spirituellement, quand on étudie spirituellement, c'est une autre dimension. Ouais. Voilà. Mazal Tov.
Ça fait partie du
texte. Slik Maseret Gitti. On a fini la Maseret Gitti. Razak Venit Razé.
Slik, ça veut dire quoi, Slik?
Slik, ça veut dire on a fini.
Fini.
Bokertov. Bon,